Bon, 6h04, nous sommes mardi 23 février. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, ce matin, ciel généralement nuageux, autour de 1 degré. C'est vraiment stable toute la journée. Là, le maximum prévu, c'est autour de 2 degrés. Quelques flocons de neige au cours de l'après-midi. Et on prévoit qu'en soirée, la neige devrait cesser. Ça demeure nuageux. Et toujours, même pendant la nuit, température stable à 2 degrés. 2 degrés au-dessus de zéro. Et pour ce qui est de demain, mercredi, encore là, 2 degrés, couvert, de la neige en après-midi, température stable, un peu de neige en soirée, mais sérieusement, il n'y a pas d'accumulation, ça fond, là. Et il y a moins d'un centimètre là, qui risque d'être enregistré. Finalement, jeudi, on prévoit le retour du soleil, quelques nuages, plus froid, autour de moins 6. Durant la nuit, de jeudi à vendredi, ça tombe à moins 10. Et vendredi, on prévoit une superbe journée, beaucoup de soleil, quelques nuages, et moins 1 degré. La grande question, depuis déjà plusieurs jours, quand, comment et où seront distribués les vaccins au Québec? D'abord, pas besoin d'insister sur l'importance de cette campagne de vaccination. Deuxièmement, le Canada et donc le Québec vont recevoir les plus importants stocks de vaccins là, cette semaine depuis le début de cette opération. Alors, de ce côté-là, les nouvelles sont quand même bonnes. Et si la cadence se maintient, c'est ce qu'on souhaite tous, il y a un objectif, c'est de vacciner tous les Canadiens au printemps et durant l'été. Et plus on va avancer, plus il va y avoir des vaccins homologués, plus on va être capable, donc, comme on dit, d'immuniser la population. Mais depuis 10 jours minimum, beaucoup de gens m'écrivent en me disant « Monsieur Arcan, mes parents ou des gens de 70 ans qui ne sont pas dans des résidences pour personnes âgées, qui vivent de façon autonome chez eux, petite maison, petit appartement, disent « Bien, à quel moment? » Puis des enfants qui m'écrivent en disant « Mes parents vont se faire vacciner quand? » On a appelé la semaine passée la santé publique. Là, c'était un mystère. On comprend qu'il y a des opérations de com', là, puis ils ne veulent pas tout dire en même temps. Donc, 13h aujourd'hui, le premier ministre Legault, qui sera dans un centre de vaccination, devrait donner plus de détails. La presse dit ce matin que les personnes de 80 et plus pourront se faire vacciner dès la semaine prochaine pour l'ensemble du Québec et pour Montréal, les 70 ans et plus. Comment faire? Bien, il faudra aller sur le web. Là, j'entends déjà des gens dire « Ouais, mais là, j'ai pas Internet, je suis pas familier. » D'abord, on va tuer le mythe là, de gens de 70 ans puis de 80 ans qui ne sont pas capables d'aller sur le web. C'est pas tout le monde, là, mais il y en a pas mal qui sont capables de le faire sans difficulté. Deux, il y aura en parallèle des réservations téléphoniques pour les gens qui ne sont pas confortables là, avec le web ou qui n'ont pas de compte comme tel. L'autre volet, c'est qu'une fois qu'on s'inscrit, on va vous donner une heure, une date et l'endroit. Et vous devrez vous présenter. L'idée, c'est bien sûr que les gens respectent le calendrier. On ne veut pas perdre les doses, puis on veut être efficace. Et là, c'est une campagne majeure de vaccination qui s'organise. Puis H1N1, on n'a été pas pire, là, mais il y a quand même des coefficients de difficulté différents dans cette campagne. L'autre chose, les entreprises. Alors, il semble que les entreprises seront mise à contribution, et que peut-être, on peut penser à des gros employeurs, organiser sur place la vaccination pour les employés. Mais ce n'est pas tout de suite, ça va être beaucoup plus tard, quand on va être rendu, d'abord avec plus de vaccins, puis avec, disons, lors des priorités, cette catégorie de travailleurs. Et là, on sait qu'on a recruté, le ministre Dubé répète depuis le début, là, qu'on a tout le monde qu'il faut, on a toutes les seringues, on a tous les endroits, on sait quoi faire, il manque que les vaccins. Alors, on devrait avoir plus de détails aujourd'hui. Mais je vous dis sérieusement, là, c'est une préoccupation, puis je sais, elle est reprise dans le Gazette ce matin. Beaucoup de personnes âgées qui sont frustrées en disant de quelle façon, dites-nous comment on va se faire vacciner. C'est ça qui est important. Et puisqu'on parle de la vaccination, il y a ce cas dans l'Outaouais. Des gens dans un centre de soins de longue durée qui, malheureusement, ont développé la COVID. Alors, le CHSLD Lionel Aymon de Gatineau, 96 % des gens avaient reçu une première dose du vaccin en décembre dernier. Et on apprenait qu'il y avait 23 résidents de l'endroit puis des employés qui avaient eu un test positif à la COVID. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont asymptomatiques, ce qui prouve que le vaccin marche, même avec la première dose. Et je rappelle que le vaccin ne fait pas en sorte que la COVID part en courant. La COVID peut, malgré le vaccin, s'en prendre à vous, mais le système immunitaire généré par le vaccin va répondre et atténuer les symptômes. Donc, les gens n'ont pas de symptômes, ou en tout cas, peu de symptômes. Et là, on essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé, comment la COVID a pu s'introduire dans le centre en question. Alors, ça, on parle de la vaccination. Maintenant, les écoles, beaucoup de parents sont inquiets. Des écoles qui sont fermées, des écoles qui rouvrent. Et hier, on a vu un peu le ministre Roberge qui nous dit que ça va bien. Ferme pas la porte à des changements de mesures pourrait être annoncé peut-être aujourd'hui ou demain, là. Mais il y a 12 écoles qui sont fermées ou partiellement fermées à cause des variants. Puis là, tu ajoutes congé scolaire, ils vont venir à l'école, comment ça va se passer? Et là, ça dépend de l'expert que vous entendez. Alors qu'ils disent, par exemple, on a fait ce qu'on pouvait dans les écoles. Le Dr Weiss avait raison. T'sais, c'est pas juste de dire « ayons des masques, assurons-nous que le masque est porté puis porté correctement et que les attroupements sont limités. » Je sais que les jeunes peuvent se retrouver à l'extérieur, puis je sais que l'école ne sera jamais la bulle parfaite, mais il faut que les écoles demeurent ouvertes. Je comprends qu'une des recommandations aussi de la santé publique, c'était des demi-classes. Et si tu réalises d'avoir des demi-classes, voyez-vous comme parents, là, une semaine sur deux, avoir les enfants à maison en télétravail, mettons. Pas certain que ça peut fonctionner. Fait qu'on comprend que c'est peut-être pas 100% puis que c'est peut-être pas idéal. L'affaire qui, par contre, depuis le début, est d'une incompréhension, c'est l'incapacité de déployer les fameux tests rapides. Là, on est rendu qu'on commence à penser que c'est une bonne idée. On le fait pour les entreprises. Puis tu regardes ailleurs dans le monde, comment tu arrives à l'école dans le monde? Prise de température. Tu vas chez un professionnel de la santé, chez un dentiste, il va prendre ta température. C'est pas le test parfait, c'est une indication. Puis le test rapide, c'est pareil. Puis là, on le voit avec des dizaines et des dizaines de cas variants qui attendent d'être confirmés. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes pour ce qui est de la situation dans les écoles. Alors, il y a des profs qui sont contaminés. Il y a une école, là, on nous a raconté ça. Ils ferment l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a des classes de contaminés. Puis dans d'autres classes, c'est le prof qui n'est pas là parce qu'il est contaminé. Puis en même temps, on ne trouve pas de remplaçant. Fait que, on n'a pas le choix que de fermer l'école. Alors, quand même, niveau de préoccupation, la critique libérale, Marois Risky, sera avec nous, puis peut-être plus tard cette semaine, le ministre de l'Éducation, M. Roberge. Si vous avez des commentaires pour alimenter la discussion sur comment ça se passe dans votre école, sur les fermetures puis la gestion des cas, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles où ça va bien, là, c'est-à-dire que le protocole est suivi, puis disons que c'est assez serré. Mais c'est sûr que la présence du variant et sa capacité de contaminer beaucoup de gens rapidement, c'est un gros point d'interrogation. Très bien. Dans Le Devoir ce matin, près d'un million de visites de moins aux urgences au Québec. Et c'était prévisible, toujours compliqué là, de faire le calcul, mais donc près d'un million de visites en moins depuis le début de la COVID. Les Québécois veulent pas aller à l'hôpital. Tu veux pas te retrouver dans la salle d'urgence à l'hôpital, à moins que ça soit bien grave. Et je vous dirais que dans un sens, on peut l'interpréter en disant, bien, les gens vont souvent à l'urgence pour rien, puis là, bien, comme ils ont peur, ils attendent. Par contre, c'est important de frapper sur le même message. Il ne faut pas négliger sa santé à cause de la COVID. Si on ne se sent pas bien, si on a un malaise qui est urgent, il faut y aller. Sinon, il faut consulter son médecin quand on en a un, me direz-vous. Alors, ce sont quand même des chiffres élevés. Trop de patients, ont, semble-t-il, hésité. Puis quand ils finissent par se pointer, bien là, la situation est plus grave. Alors, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, ça. Parce que des patients qui arrivent plus hypothéqués, puis rappelez-vous le contexte, difficile d'avoir certains tests, il y a des délais, des retards, le fameux délestage. Alors, dans Le Devoir, vous retrouvez ces détails ce matin. Également, du plomb dans l'eau des écoles et des garderies autochtones. Alors, c'est un rapport de 2017 obtenu par un consortium universitaire et médiatique qui montre qu'on trouve des quantités importantes de plomb dans l'eau. Et ça vient évidemment remettre en question la gestion de cette ressource au sein des communautés autochtones. Et la proposition du fédéral, c'est de laisser couler l'eau avant de la consommer. Et les experts vous diront que, de façon générale, c'est peut-être bien beau, mais ce n'est pas suffisant. Bon, maintenant, pour ce qui est des gens qui sont à l'extérieur et qui veulent rentrer. Il y a des vacanciers, puis il y a des gens qui ont quitté le pays pour des raisons humanitaires, familiales, c'est-à-dire trouver un proche, souvent malade. Bon, il y a des gens qui trouvent que c'est bien sévère. Il y a même une requête devant les tribunaux là, pour briser cette quarantaine. Mais ce qui est frappant, là, depuis la fin de semaine, mais ça fait des semaines et des semaines que les Canadiens se heurtent à une bureaucratie tellement lourde et inefficace que ça en est gênant. Tu sais, je ne parle même pas du système de paye Phoenix, là, qui est une honte. Mais tu essaies d'appeler, puis là, tu as donné ça à une entreprise, à une filiale d'American Express. Puis là, c'est une surcharge. Puis là, on dit aux gens, bien, pas plus que 48 heures. Puis là, ça te prend ta réservation d'hôtel, ça prend le numéro de carte de crédit. Puis t'es en attente pendant des heures. Je donnais l'exemple de l'assurance-emploi tantôt. Une femme, elle perd son emploi le 5 janvier. T'as beau remplir des trucs en ligne, t'as pas de réponse, t'as pas une scène depuis le mois de janvier, puis tu te dis, bien, à quel moment ça va finir par arriver? Puis les gens, là, peuvent pas puiser dans leur réserve qui n'existe pas. Et là, tu essaies d'avoir quelqu'un au bout de la ligne, c'est impossible. C'est la même chose pour ce qui est de l'agence de revenus. Puis on sait que la ministre nous a dit hier, si vous attendez des remboursements, ça va être plus long. Fait que tout fonctionne au ralenti. Et ça veut dire que les gens perdent des heures et des heures. Puis je parle même pas d'entreprises privées, là. Je vous parle vraiment des services gouvernementaux. T'sais, le gouvernement Trudeau a annoncé ça à l'avance. Puis il n'est pas capable que ça marche. C'est comme t'sais, le jour où on nous explique que ça fonctionne, on tombe en bas de nos chaises. C'est comme impossible. Et dans le Journal de Montréal, ce matin, le journaliste Hugo Duchesne, qui est allé en Floride, donc travailler, est revenu et partage son expérience dans un des hôtels de confinement. Il raconte certains détails sur l'opération. D'abord, il dit que ça se passe, il n'y a pas vraiment de surveillance. Là. Ça n'a pas l'air hyper sévère. Dans d'autres pays, la police, l'armée, les gens sont comme encadrés, serrés. Et l'hôtel a un menu assez varié. Un filet de saumon, du riz et des légumes. Tu as toujours payé 2 000 $. Et bref, ça se fait quand même assez bien. Il semble que les policiers ont été appelés après l'arrivée d'un voyageur à l'hôtel, mais que celui-ci serait plutôt reparti en voiture avec un complice. Et l'homme en question était toujours recherché. Est-ce que ça arrive souvent? Tu sais, t'arrives à l'hôtel, en principe, tu peux pas sortir, t'es supposé rester là. Mais il y en a qui finissent par se pousser. Et dans les autres nouvelles, il y a cette motion qui a été adoptée par le Parlement canadien à l'unanimité, mais il faut dire que les ministres libéraux se sont abstenus pour dénoncer le génocide en Chine qui frappe les minorités musulmanes. On sait que particulièrement la minorité ouïghour est touchée et les rapports qu'on voit des Nations unies parlent évidemment de femmes qui ont subi des atrocités, qui ont été torturées, battues, insultées, stérilisées de force. C'est un génocide en cours dans des camps. Et M. Trudeau, par le biais de son ministre Marc Garneau, traduit que le Canada est inquiet de ce qui se passe, mais on ne veut pas se mettre à dos la Chine. Mais en même temps, tu as une motion unanime présentée par les conservateurs au Parlement. Et les Chinois avaient dit « Faites pas ça! » Il y a toujours deux Canadiens détenus de façon arbitraire en Chine qui se demandent depuis des mois qu'est-ce qu'on va faire avec eux. Et ça n'avance pas. Toujours à partir de la foulée de l'héritière Huawei détenue en Colombie-Britannique. Donc, ça, intéressant. Et aussi, ce matin, cette lettre ouverte, je veux terminer là-dessus. En fait, deux autres nouvelles en terminant, là. Cette lettre ouverte de Stéphane Demers, qui est l'acteur, qui est Louis Bourgoin dans District 31. Bon, ceux qui n'ont pas vu les derniers épisodes, bouchez vos oreilles, là. C'est enlevé la vie. Et il raconte quand même des choses intéressantes dans cette lettre, en disant que, au départ, comme bien des acteurs dans une série comme celle-là, sa participation était limitée, son rôle a pris un peu plus d'ampleur. Et finalement, donc, il disparaît. Puis là, il raconte le parcours d'un acteur. Et dans son cas, c'est arrivé à quelques reprises qu'il soit éliminé par l'auteur dans différentes circonstances. Et il dit, on devient comme habitué à ça. C'est notre métier d'avoir des emplois, de jouer des rôles, de perdre des rôles, de vivre l'insécurité. Et comme on dit, je le cite, il faut se réinventer. Puis il revient aussi sur la précarité de l'emploi dans ce milieu-là. Et également, je dirais, de ses réactions qu'il voit, j'imagine, sur les réseaux sociaux, de commentaires de gens qui sont lâches et anonymes, dit-il, mais des gens qui nous traitent de suceurs de subventions, c'est mes taxes qui payent pour ça. La cible est parfaite, l'artiste est devenu le bouc émissaire idéal pour ceux qui ont besoin de se défouler et qui ont toujours entretenu une méfiance insécure avec tout ce qui pourrait être perçu comme différent. Fait qu'il fait le bilan de son rôle, fait le bilan de ce que c'est que le métier d'artiste, d'acteur, de comédien, puis en même temps de cette maladie mentale qui frappe le réseau, les réseaux sociaux et la haine au complet. Et puis, ce mot sur Radio-Canada, c'est un document jadis secret du département d'État américain qui montre que M. Trudeau, père Pierre-Éliott Trudeau, a demandé en 1976 à Paul Desmarais de compliquer la vie du Parti québécois. Quand même assez intéressant. Je cite, « rendre les choses aussi difficiles que possible pour le gouvernement nouvellement élu et de transférer tout doucement des emplois à l'extérieur du Québec. » C'est un télégramme daté du 22 décembre. Le PQ venait d'arriver au pouvoir. Et c'est un télégramme à l'ambassadeur américain Thomas Anders. Qui disait donc avoir une approche agressive, que M. Trudeau disait avoir une approche agressive avec le gouvernement du Parti québécois, que Paul Desmarais de Power Corp était son allié et qu'il faut rendre les choses compliquées. Il y avait 48 000 personnes au Québec qui travaillaient pour Desmarais et Trudeau disait qu'il fallait laisser intactes les structures de son entreprise tout en transférant dans le reste du Canada le plus d'opérations possibles pour faire mal paraître le gouvernement et d'amener le PQ à se commettre sur des enjeux économiques. C'est sur le site de Radio-Canada que vous pourrez lire ça. 6h23, la 40.